Weekend Extra. Jusqu'à midi, vous écoutez Weekend Extra avec Mathieu Beaumont au réseau Cogeco.
Il conclut son périple en Irak où on va retrouver notre collègue Fabrice de Pierrebourg sur place. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
À quelques minutes de repartir, de revenir au Canada après une semaine quand même assez forte en émotion là-bas. C'est pas ton premier rodéo, là, si on peut dire ainsi. C'est pas la première fois où tu te retrouves dans des situations comme celle-là. Tu constates l'après-État islamique. Que retiens-tu de cette dernière semaine?
Je dirais que l'Irak, effectivement, s'est débarrassé temporairement, à mon avis, du groupe armé État islamique, en tout cas de son territoire. Mais j'ai l'impression que les vieux démons sont en train de se réveiller, c'est-à-dire que les rivalités qui avaient été enterrées pendant cette lutte qui a duré 3 ans avec l'aide de la coalition, bah, finalement, sont en train de ressurgir. Il y a 2 rivalités entre les chiites et les sunnites dans la religion musulmane, les chiites qui ont le pouvoir à Bagdad et les sunnites qui sont opprimés. D'ailleurs, c'est un peu ça qui avait conduit, je dirais, à l'émergence de groupes djihadistes puis qui ont mené à la création de l'État islamique. Et puis, il y a l'aussi vieille rivalité entre les Kurdes d'Irak et Bagdad aussi, le pouvoir central. Ça, c'est la première chose. Mm-hmm. On pourra y revenir. La deuxième chose, c'est, je dirais, c'est peut-être plus terrain. Moi, c'est mes 2 jours et la nuit passée à Mossoul qui m'ont beaucoup impressionné. C'est une ville où c'est là vraiment que la bataille contre le groupe armé État islamique a été la plus terrible. Ça a duré 9 mois, Mathieu, 9 mois pour reprendre cette ville qui est quand même assez grande, qui fait à peu près 50 à 60 kilomètres de circonférence. Donc, c'est une taille, je dirais, peut-être aussi grande que l'île de Montréal.
Mossoul, justement, on savait là, que la guerre avait fait des ravages. Est-ce que c'est pire que ce que tu avais imaginé?
Disons qu'il y a 2 Mossoul, parce qu'il faut voir que c'est comme toutes ces villes-là. Il y a un centre, un cœur de ville, un cœur historique et une périphérie. Donc, effectivement, les combats en périphérie n'ont pas laissé trop de dommages. Je dirais que parce que l'armée irakienne, soutenue par la coalition, ont pu avancer rapidement. Oui. C'est dès qu'ils s'approchaient finalement du cœur de ville où il y a une densité de population, où il y a une densité d'immeubles, on se retrouve avec des rues de plus en plus étroites, des maisons de plus en plus vieilles, que là, les combats ont été acharnés. Et j'ai vu le résultat sur place. Et là, il y a autant du côté est de Mossoul, la vie a repris, c'était animé, il y avait des petits marchands, des embouteillages, enfin, tel qu'on l'imagine, ces villes-là. Autant à l'ouest, dans la vieille ville et dans les quartiers périphériques, ce n'était que des destructions. Je ne savais pas, moi, si c'était un tremblement de terre qui avait eu lieu là ou si on avait lancé une bombe atomique. Quoi. Ce qui est assez touchant, c'est qu'on voit encore des maisons à moitié éventrées. Tu vois encore la cuisine avec les armoires au mur, avec les assiettes. Moi, j'ai vu des endroits où c'est des chambres qui sont coupées en deux. On voit encore les vêtements qui sont suspendus. Le temps s'est arrêté. Il n'y a personne qui a pu vraiment survivre là s'il est resté jusqu'au bout. Et puis, on a eu des rencontres assez émouvantes avec des habitants qui essayent de revenir et qui voient que finalement, leur quartier, leur maison, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Puis, on a trouvé un monsieur, et ça, c'était fou, quoi. Il y a des images, j'ai mis la photo sur le site Internet. On a trouvé un monsieur sur un sofa, là. Le sofa est dans la rue. En face de lui, il y a un tas de gravats. Puis, il nous explique qu'il vient tous les jours pour surveiller sa maison, enfin, les restes de sa maison. Mais il n'y a plus rien à surveiller. Mais il sait qu'il n'aura pas d'argent. Il nous a montré que lui, il n'a pas voulu partir. Il avait 72 ans. En dessous de ces maisons-là, il y avait des caves. Il est resté pendant des jours dans ces caves. Il entendait au-dessus sa maison qui s'effondrait, les bombes qui tombaient dessus. Et autour, il y a d'autres familles qui étaient là. Il dit, on a mangé tout ce qu'on trouvait. Là, on avait des ânes morts, des chats, enfin, tout ce qui pouvait passer. Ils sont sortis hagards à la fin. Les soldats les ont extirpés. Au début, ils pensaient que c'était des djihadistes qui étaient cachés. Et chez lui, dans un bout de sa maison qui n'est pas effondrée, nous l'a montré. Puis pour moi, c'était une vision assez stupéfiante. Moi, je comprenais pas trop ce qu'il me disait. Il me dit, il y a encore un corps de djihadistes chez moi, suivez-moi. Donc moi, je suivais en le filmant. Et il était avec sa lampe, on enjambe des gravats, il ouvre une porte. Mais moi, je pensais pas le trouver si tôt, là. Il a braqué sa lumière et il y avait un corps de djihadistes asiatiques qui avait les yeux encore ouverts, qui nous regardait. Puis il dit, il y a personne qui vient enlever ce cadavre.
Aïe, c'est le quotidien
de ces gens-là. Non, mais c'est fou. On a vu aussi un monsieur qui, lui, sa maison n'était pas détruite vraiment, là. Mais il était dans un quartier détruit. Quand il est revenu avec son fils il y a quelques jours, ils ont ouvert la porte. Il y avait un fil qui traînait par terre, mais en général, il n'a pas fait attention, mais en général, il faut faire attention avec des roches. Puis quand son fils a marché sur le fil, ça a déclenché une bombe qui était dans la petite cour intérieure, proche de lui. Il y avait encore le souffle de l'explosion, la noirceur sur les murs et son fils est mort sur le coup. Alors, finalement, ces gens-là ont été punis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils ont été sous le joug de l'État islamique. Après, ils ont subi des bombardements. Puis maintenant, ils se retrouvent à plus pouvoir rentrer chez eux ou n'a plus avoir de chez eux. Puis ils se demandent comment ça se fait que la communauté internationale qui a malgré tout détruit leur ville, peut-être pour une bonne raison, enfin, pour la lutte contre l'État islamique, ne vient pas à leur secours.
Ouais. Je sais que tu as assisté à cette époque-là, à cette période-là aussi, à des opérations assez particulières de déminage. C'est assez saisissant, là, encore, hein, les images.
Oui. Oui, mais ça c'était un peu le hasard. C'est que la deuxième journée, on était dans un quartier, le quartier de Sedan, qui est un quartier dévasté aussi. Puis là, ils étaient vraiment sur les nerfs, les forces de police. Ils ont presque arrêté, ils voulaient savoir pourquoi on allait là. Ils m'interdisaient de prendre des photos. Ils voulaient, enfin, en tout cas, me sortir de là. Et ils venaient d'arrêter des jeunes qui pensaient être des djihadistes, d'ailleurs. Et à ce moment-là, il y a un officier qui est arrivé, militaire, qui nous a parlé, puis qu'il a compris qu'on était Canadiens, que j'étais Canadien, puis il m'a dit « Ah, mais moi, j'ai été formé par les Canadiens. Je suis responsable d'une équipe de déminage. Est-ce que ça vous tente de venir avec nous ?» Moi, je dis « Oui, pourquoi pas ?» Et là, bon, ils avaient récupéré tout un tas de stocks, deux ceintures d'explosifs, mais vraiment des ceintures de kamikaze très, très bien faites, là, pas des trucs artisanaux, avec de l'explosif synthétique, des billes d'acier pour faire le plus de dégâts possible. Là, ils ont amené ça dans une petite cour avec d'autres stocks qu'ils avaient récupérés dans les maisons, justement, tout ce qui pouvait traîner dans les maisons. Et là, ils se sont mis à désamorcer ça, mais à main nue. De toute façon, si ça sautait, un uniforme ne suffirait pas, mais quand même, ils avaient les manches relevées, une pince coupante, puis là, ils regardent les fils, puis ils choisissent, tac, tac, ils coupent les fils. Après, on a mis tout ça dans le coffre de la voiture.
Vous êtes parti avec ça?
Oui. Puis, non, mais j'ai fait des photos parce que les gens peuvent me dire, ils fabulent, je fabule pas, là. On est parti, puis en route, il a dit, ah, on a faim, avant d'aller faire exploser, on va manger. Donc, on s'est arrêté dans un petit, il y a des tonnes de petits commerces, là, où ils font des shawarma, etc. Donc, on a acheté des shawarma, du thé, on a bu le thé, puis on est reparti avec les voitures chargées d'explosifs dans un terrain vague à l'extérieur de Mossoul. Là, ils ont tout empilé. Vous pouvez voir la vidéo, d'ailleurs, sur le site du 98.5. Là, ils ont empilé les ceintures explosives, les roquettes, des grenades, tout ce qu'ils avaient trouvé dans les caches de l'État islamique. Et là, ils ont provoqué une explosion gigantesque, puis se prenant selfie juste avant l'explosion. Enfin, je me suis dit qu'après, peut-être ce jour-là, j'avais joué un peu avec ma vie, mais je me suis dit qu'eux n'avaient pas envie de mourir, donc j'étais en sécurité.
Mais raconte-nous, là, eux, là, visiblement, c'est leur quotidien, là, ça fait partie de leur travail. C'est quelque chose pour lequel ils n'ont pas d'inquiétude. Quand vous êtes arrêté justement au kiosque de shawarma pour prendre le thé, tu devais avoir hâte que vous repartiez de là quand même.
Ouais, mais honnêtement, j'ai oublié, j'ai pas réalisé tout de suite. Un soukou, c'est un peu fou quand même. Je me dis, de toute façon, comment ils peuvent faire d'autres pour les transporter? Mais j'imagine qu'ici, on mettrait ça dans des véhicules avec toute une sécurité, peut-être un truc blindé. J'en sais fiche pas rien, là. Mais là-bas, ça fait partie. Écoutez, c'est un pays qui est en guerre depuis des années. Il y a des urgences. Puis déminer des quartiers où les habitants doivent revenir, c'est une urgence. C'était assez surréaliste, je dois dire. La puissance de l'explosion, quand tout ça a sauté, était spectaculaire. Le sol a tremblé. Ils avaient mis ça dans une espèce de vieux... vieille cache en béton, comme une espèce de petit bunker, et on a vu le dessus de ce cache en béton se soulever à des dizaines de mètres en l'air. Quoi. La puissance était terrible. Quoi.
Fabrice de Pierrebourg, tu restes avec nous. Dans un instant, on racontera qu'il y a encore des zones de tension extrêmement vives en Irak.
Weekend Extra. Jusqu'à midi, vous écoutez Weekend Extra avec Mathieu Beaumont au réseau Cogeco.
De retour avec notre correspondant Fabrice de Pierrebourg en direct d'Irak. Fabrice, tu es allé visiter un hôpital. Comment il se débrouillait, l'État islamique, justement, en lien avec les soins de santé qu'il devait donner?
Première chose, je me suis dit, vraiment, là, il y a une organisation qui est bien rodée puis qui arrive à tenir un territoire. Donc, on est au-delà d'un petit groupe terroriste ordinaire. L'hôpital, là, ça a été le deuxième choc. C'était à Kayara, c'est au sud de Mossoul. C'est une ville qui est connue parce que on a vu des images au moment de l'offensive sur Mossoul. On voyait un ciel tout noir, puis on voyait des animaux qui étaient noirs de pétrole. C'était noir parce qu'ils ont, en partant, ils ont fait exploser les puits de pétrole. Puis donc pendant 7 mois, les gens des environs ont reçu de la pluie de pétrole sur la tête, de la fumée de pétrole en combustion. Enfin bon, donc on a été là-bas il y a 3-4 jours et on nous a dit, mais vous devriez aller voir l'hôpital de l'État islamique. Ah bon? Donc on est allé là-bas. Le choc, un bâtiment flambant neuf, et pour cause, il avait été payé entre autres par la Commission européenne, par différents fonds. Il a été fini de construire en 2014, au moment où le groupe armé État islamique s'emparait de Mossoul et puis de toute cette région. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, ils se sont emparés de l'hôpital, flambant neuf, avec un CT scan, des scanners, des radios. Moi, je les ai vus, là. Vraiment, le matériel dernier cri, 4 étages, près de 1000 lits, blocs opératoires, néonatologie, tout ce qu'on veut, là. Moi, je l'ai appelé à la blague, hein, le chum des djihadistes, là, ou le cuzum, peu importe, là. Et pendant 3 ans, ils ont géré cet hôpital. Au début, ils ont forcé, évidemment, les médecins, le personnel locaux à travailler pour eux. Mais très vite, sont arrivés, m'ont dit les gens qui étaient là-bas à l'époque, des djihadistes ou des volontaires étrangers, des gens recrutés par l'organisation, et qui sont venus, y compris des médecins, des infirmiers, des infirmières, qui sont venus là, qui sont venus travailler là. Puis on sait que parmi les jeunes qui sont partis du Québec, il y en a qui étudient en sciences de la santé, puis on leur avait promis qu'ils pourraient continuer leurs études là-bas, puis qu'ils seraient au service de la population irakienne et syrienne. On sait qu'il y a eu tout un groupe de médecins aussi qui sont partis d'étudiants en médecine de Grande-Bretagne. À l'époque, ça avait fait grand bruit dans les médias pour rejoindre le groupe armé État islamique. Donc, on travaillait là, finalement, à la fois des locaux, puis des volontaires du groupe armé. Et ils ont travaillé dans cet hôpital pendant 3 ans. Et ce qu'on m'a expliqué, parce que malgré tout, il faut faire rentrer de l'argent, puis c'est là où oui. On voit qu'ils avaient compris la chose. Il y avait le pétrole qui leur apportait beaucoup d'argent, mais il en fallait beaucoup plus, qu'il fallait payer tout ce monde-là, payer les armes, etc. Donc, pour les djihadistes, c'est un système public, ils ne payaient pas quand ils venaient se faire soigner. Mais les habitants du coin, là, eux, s'ils voulaient recevoir des soins, on leur facturait, les soins. C'était comme si c'était une clinique privée. Alors, mais il faut voir. C'est vrai. Alors maintenant, malheureusement, en partant, ce qu'on nous dit, c'est que c'est eux qu'on... Moi, j'ai vu les appareils, effectivement, étaient tous abîmés, sabotés, il y a des gravats. On nous dit que c'est les djihadistes qui ont fait ça avant de partir, ils ont tout saboté. Mais j'ai pu quand même voir qu'effectivement, c'était quelque chose d'impressionnant. Il y avait une espèce de pierre. Quand on rentre, il y a un hall gigantesque avec, c'est quasiment du marbre au mur. C'était pas un vieil hôpital de Montréal en décrépitude. Et ils ont, honnêtement, cet hôpital-là, comme il se doit pendant 3 ans sous leur règne. Quoi.
Évidemment, la paix n'est pas revenue. Le groupe État islamique est disparu de la carte. On sait comment il est né aussi. Il a ressurgi des cendres du Parti Basque aussi à l'époque, parce que la communauté internationale les avait laissés. On avait comme oublié que ces gens-là continuaient à avoir des convictions. Ils renaissent de leur sens. Il y a des conflits qui sont toujours présents. Entre les Kurdes et l'armée irakienne également, qui sont face à face, il y a toujours des zones où il y a de la tension extrême quand même dans ce coin.
Oui, alors si je prends les djihadistes, ils ont quasiment disparu. Il reste encore des poches, je dirais, dans les zones désertiques à la limite de l'Irak et de la Syrie. Il y a encore une opération hier. À Kirkouk, où j'étais, dans une ville pétrolière, d'ailleurs, qui a été un enjeu de dispute militaire récente entre les Kurdes et les pouvoirs centraux, je vais y revenir. Il y a des offensives régulières de groupes djihadistes, en particulier du groupe État islamique. C'est d'autres groupes aussi dans la périphérie sud. L'autre jour, il y a une trentaine de miliciens chiites qui combattent, soutenus par l'Iran, mais qui combattent pour Bagdad, qui ont été tués dans une embuscade. Il y a un an et demi, d'ailleurs, il y avait des combattants de l'État islamique qui avaient réussi à rentrer au centre de Kirkouk, puis à tenir pendant 3-4 jours un siège dans des bâtiments gouvernementaux. Mm-hmm. Donc, ça reste. Et puis, il y a plusieurs poches de tension. Près de Mossoul, il y a eu des arrestations de djihadistes récemment. Et on voit qu'il y a encore des petits. Mais techniquement, ils n'ont plus de territoire. Mais en revanche, quand on dit face à face les Kurdes et les troupes irakiennes, c'est vrai, au propre comme au figuré. En septembre, ils ont fait un référendum, les Kurdes d'Irak. Ils ont voté 92% pour l'indépendance. Puis là, Bagdad, évidemment, comme d'habitude dans le monde entier, le pouvoir central ne l'a pas pris. Ce qu'ils ont fait, c'est que 2 semaines plus tard, ils ont envoyé leurs troupes contre les Peshmerga, alors que ces deux groupes-là, finalement, étaient alliés.
Encore, il y a quelques mois à peine, mais oui.
Par l'Occident. Ouais, contre l'État islamique. Là, maintenant, une fois que c'est fini, ils retrouvent leur vieille rivalité. Et donc, Bagdad a envoyé ses troupes. Ils essayent de repousser, finalement, les Kurdes vers leur territoire d'avant l'État islamique. Et depuis plusieurs semaines, il y a une ligne de confrontation. Puis j'y suis allé vendredi. Où ils se font face, il y a un no man's land de 500 mètres. Donc d'un côté, il y a des fortifications kurdes, où j'étais, de l'autre, il y a les fortifications de l'armée irakienne, en particulier de ces milices chiites, qui font la peur de la plupart de la population sunnite, d'ailleurs y compris à Mossoul, ils sont terrorisés par ces gens-là. Mais ce qu'il faut comprendre, puis c'est là où le Canada, on se retrouve dans une drôle de position, c'est que nous, les soldats canadiens, puis les forces canadiennes, depuis 3 ans, on entraînait les Peshmerga kurdes, on était avec eux au combat, mais en même temps, le Canada donnait des conseils opérationnels aux forces irakiennes en tant que telles. Alors là, Ottawa se dit, en décembre, là, on a un petit problème parce que on peut pas entraîner, soutenir d'une façon ou d'une autre deux belligérants. Ça prouve bien qu'au Moyen-Orient, souvent, faut faire attention parce que il y a des retournements d'alliances très rapides. Et les ennemis de mes ennemis sont pas toujours mes amis longtemps, quoi.
Fabrice de Pierrebourg, merci infiniment de ton récit, de ta présence là-bas. Merci beaucoup, salut bien.
Salut.
Au revoir. Notre collègue Fabrice de Pierrebourg que l'on retrouvait en direct d'Irak. Je vous rappelle que les photos sont disponibles par le site web de la station. Merci beaucoup à Fred Perron à la réalisation de l'émission. François Arnois à la recherche. On se donne rendez-vous demain à compter de 7h pour les grands titres et 8h pour Week-end Extra. Bon samedi.